géopolitique. Marie-France Chatin.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette édition de Géopolitique consacrée aux nouveaux enjeux énergétiques en Méditerranée et au Moyen-Orient. Géopolitique est à Grenoble, dans les murs de l'Institut de Sciences Politiques, à l'occasion de la tenue des journées internationales organisées par le Master Méditerranée-Moyen-Orient de Sciences Po et la chaire Méditerranée-Moyen-Orient de la région Rhône-Alpes. Les hydrocarbures seront-ils un facteur de paix ou plutôt de conflit? C'est l'une des questions qui se posent et non des moindres, alors que le secteur voit ses cartes sans cesse rebattues, qu'il s'agisse de la récente découverte de l'un des plus grands gisements offshore de gaz naturel dans les eaux territoriales de l'Égypte, découverte qui tient du miracle pour le Caire, en même temps qu'une menace, on le verra peut-être, pour la stratégie gazière d'Israël ou encore du retour de l'Iran sur le marché notamment pétrolier. Pétrole et gaz, acteurs de recomposition régionale au Moyen-Orient, regard avec nos invités. Samuel Furfari, professeur de géopolitique à l'Université libre de Bruxelles, spécialiste des questions énergétiques. Bonjour.
Bonjour.
David Amselem, spécialiste des enjeux énergétiques au Moyen-Orient, docteur en géopolitique à l'Université Paris 8, bonjour.
Bonjour.
Et Jean-Paul Burdi, historien à Sciences Po Grenoble, bonjour.
Bonjour.
Et avec moi pour animer cette émission, Clémence Gaillonni, qui est étudiante en deuxième année en master Méditerranée Moyen-Orient à Sciences Po Grenoble, bonjour également.
Bonjour.
Depuis 5 ans, les découvertes de gaz se sont multipliées en Méditerranée orientale, au large d'Israël, du Liban, de Chypre, d'Égypte, transformant la région en une province gazière pleine de promesses, même si les réserves n'ont pas la taille de celles de la Russie, du Qatar ou de l'Iran. Avant de parler de gaz, quelques mots sur le pétrole. Samuel Furfari, un Proche-Orient dans le chaos et un prix du pétrole bas, c'est, vous le dites, inédit.
Ça n'est jamais arrivé. En effet, chaque fois qu'il y avait la moindre étincelle au Moyen-Orient, le prix du brut flambait, sans jeu de mots. Et donc, nous nous trouvons dans une situation tout à fait originale, inédite. Le chaos qui part de la Libye ou même de la Tunisie jusqu'à l'Iran, et pourtant, le prix du pétrole qui dégringole. C'est dû surtout au développement technologique. On sous-estime l'importance de la technologie dans le domaine des hydrocarbures. Mais il y a eu véritablement des grandes évolutions technologiques dans la prospection et dans la production qui ont conduit à découvrir des nouveaux gisements et aussi à permettre l'exploitation de gisements qui étaient beaucoup plus compliqués. Et cela a permis d'augmenter les réserves dans des endroits non conflictuels et finalement, de montrer au monde que nous avons assez de pétrole et qu'il n'y a pas lieu de continuer à l'utiliser comme une arme stratégique comme ça a été fait pendant une quarantaine d'années.
Parce que Samuel Furfari, on l'a bien compris, un pétrole cher procure de l'argent pour partir prospérer dans des endroits très coûteux et parce que éloigné des côtes, entre autres choses, et il faut descendre chaque fois plus profond.
Oui, c'est vrai, par exemple, avec ce qu'on voulait faire dans l'Arctique. Le prix du pétrole était tellement élevé à une certaine époque qu'on s'est dit, mais après tout, on peut maintenant aller explorer l'Arctique dans des conditions climatiques terribles. La nuit dure 6 mois, et donc c'est quelque chose d'extraordinaire du point de vue technologique. Et les entreprises étaient prêtes à le faire, parce que le prix du pétrole était trop élevé. Avec le prix du pétrole aujourd'hui, tous ces projets sont abandonnés, parce que on peut aller produire dans des endroits où il y a du soleil plutôt que la nuit qui dure 6 mois.
Alors un pétrole moins cher, on est passé de plus de $100 le baril à quelque chose comme $50 le baril aujourd'hui. Et d'aucuns évoquent une poursuite de cette baisse. Samuel Furfari, un baril de pétrole à $20, ce serait... Voilà, c'est un chiffre qui est dénué.
Figurez-vous qu'en 2000, l'OPEP avait instauré ce qu'ils appelaient une bande de prix. Le prix du pétrole, pour eux, devait osciller entre 22 et 28. À l'époque, la Commission européenne n'était pas contente et elle disait « ça doit osciller entre 20 et 26 ». Voilà, entre 20, 26, 20, 22, 28, on est toujours à $50. Mmh. Donc il y a encore de la marge pour que ça descende. Et je crois, personnellement, qu'on va avoir une période assez longue de prix du pétrole encore plus bas que ce que nous avons aujourd'hui.
David Amselem et Jean-Paul Burdi, un commentaire pour compléter ce que Samuel Furfari évoquer ce...
Juste une remarque. Effectivement, il y a une augmentation de l'offre de pétrole, ce qui explique la baisse. Mais je pense qu'il ne faut pas non plus sous-estimer la stratégie des acteurs, et notamment le rôle de l'Arabie Saoudite dans cette histoire. Il aurait été possible que les prix augmentent, et d'ailleurs ça avait été une demande faite par les pays de l'OPEP, mais l'Arabie Saoudite y était formellement opposée dans une stratégie géopolitique pure de favoriser la baisse et donc d'empêcher certaines extractions non rentables, notamment de gaz de schiste en Amérique du Nord. Donc effectivement il y a une augmentation de l'offre, on le voit, par la technologie, mais il y a également un jeu des acteurs. C'est pas parce qu'il y a une augmentation de l'offre qu'on aurait pu avoir un prix forcément bas. Si l'Arabie Saoudite ferme ses robinets, et d'autres grands acteurs également, les prix forcément vont remonter. Donc il y a aussi cette double aspect technique offre et en même temps stratégie des acteurs.
Alors l'augmentation de l'offre, et je me tourne vers vous Jean-Paul Burdi, il est évident aussi que le retour de l'Iran sur le marché des hydrocarbures promet un impact évident.
Oui, alors l'Iran répète qu'il veut retrouver sa juste place sur le marché mondial après des années de sanctions, d'embargo, etc. Le problème, c'est que l'Iran, après l'accord sur le nucléaire du 14 juillet dernier, va se retrouver avec un marché mondial saturé à la fois de pétrole et de gaz, et que donc le retour de l'Iran sur le marché mondial se fait à un très mauvais moment, conjoncturellement, pour l'Iran, indépendamment d'autres problèmes géopolitiques.
Alors, juste pour comprendre, puisqu'il est question d'hydrocarbures en Méditerranée orientale et au Moyen-Orient, le lien prix du pétrole, prix du gaz, Samuel Furfari et toutes ces découvertes de gaz, dont celle que j'évoquais en introduction de l'émission, en Égypte, évidemment une manne extraordinaire pour le Caire, mais... Voilà, pour nos auditeurs, lien pétrole, gaz.
Le gaz est une énergie beaucoup plus récente que le pétrole. Et lorsqu'on, dans les années 60, on a commencé à vendre du gaz, on s'est dit, à quel prix doit-on le vendre? Bien, on s'est dit, après tout, on peut le vendre au prix de concurrence par rapport au prix du fuel domestique. Et donc, on a calqué le prix du gaz sur le prix du fuel domestique. C'était essentiellement pour chauffer les maisons à l'époque. Et donc, on a toujours, depuis lors, indexer le prix du gaz sur le prix du fuel lourd ou du brut. Aujourd'hui, il n'y a plus de raison d'être. Il faut séparer le prix du gaz du prix du pétrole parce que ce sont des produits différents, avec des marchés différents et une logique de géopolitique tout à fait différente. Grâce à la multiplication des ressources gazières et des gazoducs qui transportent le gaz, on est en train de s'approcher de cette séparation définitive du prix du gaz par rapport au prix du pétrole, ce qui est une bonne chose pour les consommateurs.
Samuel Furfari, après ça je passe la parole à Clémence Gaillonni. Juste des logiques politiques différentes entre gaz et pétrole, vous pouvez nous éclairer?
Oui, parce que ce sont des finalités différentes. Le pétrole est incontournable. C'est peut-être pas un mot sympathique, mais c'est une réalité. 94% de la consommation d'énergie dans le domaine du transport en Europe, c'est le pétrole, 94. Le gaz, c'est pas du tout comme ça. Le gaz, ça peut être utilisé pour l'électricité, mais si on nous fait un embargo sur le gaz, on va utiliser du charbon, du nucléaire, du renouvelable. C'est pour se chauffer dans les maisons où il y a de la biomasse, où il y a de l'électricité. Donc, il y a une possibilité de remplacer le gaz immédiatement. Dans le pétrole, hélas, ce n'est pas du tout le cas. C'est pour ça qu'on a un problème de géopolitique de l'énergie, à cause de cette trop grande dépendance du secteur du transport par rapport au pétrole.
Clémence Gaillonni.
Alors, monsieur Samuel Furfari, qu'est-ce que ces gisements qui ont été découverts en Méditerranée orientale pourraient apporter à l'Union européenne? Quels avantages pour l'Union européenne pourraient-ils apporter?
L'Union européenne a besoin de diversifier ses sources d'approvisionnement gazière de manière, d'une part, à assurer son approvisionnement, mais surtout aussi de jouer sur la concurrence de manière à ce qu'on puisse bénéficier de prix plus intéressants pour le consommateur, à la fois industriel et domestique. Et donc, nous avons comme vocation à introduire dans le marché européen des nouveaux acteurs gaziers. Ce qui se passe en mer du Levant est particulièrement intéressant parce que ce sont des acteurs qui n'existaient pas, qui d'ailleurs n'exportent pas encore vers l'Europe ni d'ailleurs. D'ailleurs, il faut faire en sorte que l'Europe puisse participer à ce bénéfice qu'offre le gaz du Levant pour jouer sur la concurrence et faire baisser les prix du gaz qui arrive pour l'instant de Russie, d'Algérie et de Norvège.
David Amselem et Jean-Paul Burdi.
Effectivement, la Méditerranée orientale devient un espace stratégique d'un point de vue énergétique pour l'Union européenne. Ce n'était pas du tout le cas. Et les pays européens du pourtour méditerranéen l'ont compris avant l'Europe. C'est-à-dire que dès 2010, Chypre, la Grèce et maintenant l'Italie se sont déjà intéressés à cette région et ont commencé à nouer des partenariats, notamment dans le cadre d'accords israélo-chypriotes, israélo-grecs. Et ces pays européens ont compris tout de suite la nécessité de favoriser un partenariat énergétique avec les nouveaux grandes puissances gazières de la région. Et effectivement, j'imagine que maintenant, avec la nouvelle découverte égyptienne, cela va être accentué, renforcé, peut-être même soutenu par l'Union européenne, par des financements pour construire les voies d'acheminement. C'est bien ça le problème aujourd'hui, c'est exporter ce gaz vers l'Union européenne. Les gazoducs n'existent pas tout à fait, il y a plusieurs scénarios envisagés, il y a le scénario également du gaz liquide, mais qui est compliqué, qui coûte cher, donc tout ça est à mettre en place. Ça coûte cher, mais je pense que maintenant l'Union européenne, compte tenu des quantités, a un intérêt réel à investir dans ce secteur.
Donc il y a une vraie occasion et chance à saisir, c'est cela que j'entends, de façon à ce que ce cercle soit plutôt vertueux, Samuel Furfari, et que malgré les difficultés qui existent sur le pourtour de la Méditerranée, et bien que, voilà, que peut-être le gaz soit quelque chose précisément de structurant.
En effet, il ne s'agit surtout pas de voir cela comme une animosité vis-à-vis de nos fournisseurs historiques, que sont la Russie, l'Algérie et la Norvège, mais de dire on a besoin de plus de ressources de manière à diversifier les approvisionnements, diminuer les risques, améliorer la compétitivité, et ces pays ont besoin aussi de clients. Il faut toujours voir que si l'Europe a besoin d'approvisionnement, eux ont besoin de clients. Et donc c'est ce nouveau partenariat qui est en train de se mettre en place dans la géopolitique de l'énergie. Il faut être à deux, s'entendre et ne plus se confronter comme on le faisait dans le passé. Et donc si on parvient à exporter du gaz d'Égypte, d'Israël, de Chypre vers l'Union européenne, c'est bon pour eux, c'est bon pour nous.
Jean-Paul Burdi.
Alors, en revanche, ça peut jouer contre d'autres acteurs qui espéraient profiter du marché européen. Si on prend l'exemple de l'Iran, l'Iran envisageait de construire des gazoducs en direction de la Méditerranée et de la mer Noire, donc en direction de la Syrie dans le premier cas, à travers la Géorgie éventuellement dans le deuxième cas. Sauf que l'émergence de ces nouveaux gisements en Méditerranée orientale joue contre une stratégie iranienne d'exportation du gaz vers l'Ouest, qui va peut-être inciter l'Iran à plus se tourner vers l'Orient que vers l'Occident.
Alors en tout cas, pour rebondir, et je vous repasserai la parole, Clémence Gaglioni, sur les recompositions, ce qu'il faut comprendre avec, je prends l'exemple à nouveau de l'Égypte, et donc cette découverte de gisements absolument colossaux et au bénéfice du Caire, tout cela marque une recomposition, c'est-à-dire que les conséquences pour Israël, qui voulait se présenter comme grand fournisseur de gaz, eh bien voilà, Israël a du souci à se faire. La question russe aussi sur cette question, évidemment. Alors si on doit déterminer, comme on le fait en géopolitique, les perdants, les gagnants, il est sans doute trop tôt pour bien évidemment pouvoir dire qui l'emportera. En tout cas, probablement que le spectre et la fenêtre gazière permet aujourd'hui de comprendre mieux ce qui se passe sur le plan géopolitique. Et quelques mots sur la Syrie, peut-être également, Samuel Furfari.
Nous sommes surpris de ce qui est en train de se passer dans le monde de l'énergie. Il y a eu des grosses évolutions. Il faut les intégrer. Cela prend du temps aussi. Mais cela doit être fait aussi en tenant compte des coûts d'investissement. Et donc, quand on regarde ce qui s'est passé en Turquie pendant la décennie précédente, où on a proposé diverses solutions pour exporter du gaz vers l'Union européenne, on s'aperçoit que c'est beaucoup plus difficile à réaliser qu'on ne l'imagine au début. Donc ce qui se passe en mer orientale est tout nouveau. Que va-t-il advenir de ce gaz? On ne le sait pas encore. Il faut chercher des solutions. Mais ce qui est certain, c'est que ça perturbe complètement les schémas sur lesquels nous étions habitués pendant 40 années. Nous sommes dans des schémas où le marché est beaucoup plus important qu'il ne l'était dans le passé. Et cela, il faut l'intégrer aussi parfois admettre qu'on mise sur une solution qui ensuite apparaît comme étant trop compliquée, trop coûteuse. Soyons un peu plus patients parce qu'il n'y a pas de solution immédiate.
David Domsonen.
Je reviens sur ce que vous avez dit sur les gagnants et les perdants. Je trouve ça intéressant parce que il y a des perdants, il y a des gagnants, évidemment. Mais l'État comme l'Égypte ou un État comme Israël peut être à la fois gagnant et perdant. C'est-à-dire que tout dépend de quel point de vue on se situe. Pour la population de ces pays-là, qui ont besoin d'énergie énormément, ils en importent beaucoup, ils en ont beaucoup importé, ils avaient jusqu'à récemment très peu de ressources. Là, ils vont pouvoir produire du gaz naturel et notamment pour produire de l'électricité, ce qui peut être vraiment une très bonne chose pour les populations de la région. Pour autant, d'un point de vue des exportations, et là on regarde davantage les intérêts des compagnies privées, donc ça reste quelque chose de différent, là c'est effectivement une moins bonne chose. Je pense notamment aux compagnies privées israéliennes et américaines qui explorent les grands gisements de Tamar et Léviathan. Et également, d'ailleurs, le gisement au large de Chypre. Là, c'est moins bon pour eux parce que l'arrivée d'un grand acteur égyptien de la compagnie Eni qui a découvert cet énorme gisement...
Compagnie italienne.
Italienne, va poser un vrai souci au projet d'exportation du gaz pour les Israéliens. Mais pour autant, c'est très bon pour l'État d'Israël. C'est très bon parce que la Compagnie nationale d'électricité va pouvoir avoir plusieurs fournisseurs, faire jouer la concurrence, et c'est bien ça aussi l'enjeu dans ces sociétés-là, c'est-à-dire ne pas voir la constitution de situation de monopole, et que sur les prix, ça va pouvoir jouer à la baisse. Et je trouve ça aussi intéressant.
Samuel Vurvary.
C'est tout à fait exact. Mais les réserves de gaz en Israël sont beaucoup trop importantes pour le pays. Il y a actuellement l'équivalent de 130 années de consommation de gaz. Alors on va construire des nouvelles centrales au gaz, ils ne vont pas abandonner le charbon pour des raisons stratégiques et de sécurité. Donc le gaz israélien a pour vocation d'être exporté. Et c'est pour cela que le Premier ministre Netanyahou a décidé le 1er novembre de devenir pour quelque temps le ministre également de l'économie et de l'énergie, de manière à prendre sa responsabilité pour décider d'exporter ce gaz parce que c'est un revenu important pour le pays et il sait qu'il y a des pays qui sont demandeurs.
Alors évidemment, la question palestinienne est intéressante aussi sur la question d'Israël par rapport au gaz. Et vous l'évoquiez tout à l'heure, David Amselem, ces nouveaux accords entre Israël, Chypre, Israël, la Grèce, tout cela en conséquence finalement et en effet domino direct de ces découvertes récentes en Égypte. On va voir tout de même l'Égypte et Israël entrer en concurrence directe pour l'exportation du gaz.
C'est certain que les réserves d'Israël permettent l'exportation. La question, c'est maintenant à qui ils peuvent exporter. C'est-à-dire que jusqu'à la découverte égyptienne, l'État d'Israël s'était imposé comme l'acteur dominant sur le marché gazier en Méditerranée orientale. Donc les États voisins, même si les opinions publiques locales n'étaient pas forcément favorables à un accord gazier avec l'État d'Israël, c'est le cas par exemple de l'Égypte, c'est le cas de la Jordanie, il y a eu des entrevues discrètes avec Chypre au nord et même la Turquie. Donc l'État d'Israël était devenu un acteur incontournable. Maintenant, c'est plus du tout sûr que les Jordaniens veulent continuer à importer du gaz d'Israël alors qu'il y a du gaz égyptien. Mmh. Et de même, alors puisque vous parlez des Palestiniens, c'est pareil, des accords, des mémorandums d'accord avaient été signés avec l'autorité palestinienne dans l'espoir de construire la paix sur une base énergétique. Ça nous rappelle de vieilles choses en Europe. Mais j'imagine que ça aussi, ça va être compromis parce que l'Égypte arrive avec du gaz qu'elle va vendre certainement au moins au prix d'Israël, voire peut-être à des prix inférieurs. Donc il y a tout intérêt pour les voisins d'acheter du gaz égyptien plutôt qu'israélien. Et là, Israël se tournera du coup vers l'Asie, Asie ou Europe, vers des solutions de gaz liquéfié. C'est en tout cas ce qui est envisagé.
Alors on parlera de tout ça en complément dans la deuxième partie de l'émission, bien sûr de l'Iran aussi avec vous, Jean-Paul Burdi, et puis de la Syrie, puisqu'on parlait de ces accords, et voir finalement peut-être aussi comment l'appui russe au gouvernement de Bachar el-Assad n'est pas sans lien avec les questions énergétiques. Géopolitique, nous retrouvons nos invités Samuel Furfari, David Amselem et Jean-Paul Burdi dans quelques instants. À tout de suite.
Géopolitique, Marie-France Chatin.
Géopolitique, regard sur les enjeux énergétiques en Méditerranée et au Moyen-Orient depuis l'Institut de sciences politiques de Grenoble à l'occasion de la journée des
la tenue des journées internationales organisées par le Master Méditerranée-Moyen-Orient de Sciences Po Grenoble. Nous retrouvons nos invités, Samuel Furfari, professeur de géopolitique à l'Université libre de Bruxelles, spécialiste des questions énergétiques. David Amselem, spécialiste également des enjeux énergétiques au Moyen-Orient et docteur en géopolitique de l'Université Paris 8. Et Jean-Paul Burdi, historien à Sciences Po Grenoble. Et avec moi pour animer cette émission, Clémence Gaillonni, qui est étudiante en deuxième année en Master Méditerranée-Moyen-Orient à Sciences Po Grenoble. Jean-Paul Burdi, on a terminé la première partie de l'émission sur les recompositions après la découverte de nouveaux gisements de gaz dans les eaux territoriales égyptiennes, les conséquences sur la place qu'occupait Israël en la matière. La question syrienne que nous n'avons pas évoquée et le soutien russe à Bachar el-Assad n'est pas sans lien avec la question énergétique et les accords et en tout cas les possibles réserves gazières au large de la Syrie.
Alors le fait est que jusqu'à maintenant on a évoqué Chypre, on a évoqué Israël, on a évoqué l'Égypte, on pourrait parler un petit peu du Liban, mais que du point de vue des ressources offshore, on n'a pas encore évoqué le cas syrien. Il y a deux explications à ça. La première explication, c'est que pour le moment, l'exploration n'a pas encore vraiment débuté et que du coup, il y a peut-être rien à découvrir, mais peut-être qu'il y a des choses à découvrir au large des côtes syriennes. On a tendance parfois dans certains textes sur la guerre en Syrie à surestimer le rôle énergétique. Alors, il faut rappeler d'abord que la Syrie n'était qu'un petit producteur de pétrole et de gaz, essentiellement dans la vallée de l'Euphrate et au nord-est du pays, que ses ressources en plus étaient en voie d'épuisement, donc de ce point de vue-là, la Syrie n'avait pas grande ressource. Alors, il est de fait qu'il y a une dizaine d'années à peu près, avant que ne commence la guerre civile en Syrie, le pays a été très sollicité par des acteurs régionaux pour être traversé par, en particulier, des gazoducs. Il y a eu un projet qatari, partant du Qatar à travers l'Arabie Saoudite en direction de la Jordanie puis de la Syrie. Et il y a eu un projet iranien, à peu près au même moment, en 2010-2011, traversant, lui, l'Irak et arrivant au même endroit, c'est-à-dire dans la ville de Homs. Et du coup, certaines analyses ont eu tendance à dire bon, tout ça détermine un peu le développement du conflit syrien. En réalité, je pense qu'il faut considérer qu'il n'y a pas de facteur énergétique dans le conflit syrien, ni à court ni à long terme. En revanche, il est intéressant de constater que en 2013, à Noël 2013, le 25 décembre, on a eu la signature d'un accord entre Damas et une compagnie pétrolière russe pour l'exploration et éventuellement l'exploitation de ressources gazières au large des côtes syriennes. Bon, bien évidemment, le conflit est tel que ces opérations ne sont pas prêtes de débuter, mais il y a peut-être un potentiel, à moins que la Russie ne soit en train de placer des pions au cas où, à long terme, il y ait un intérêt à être présent effectivement en Syrie.
David Amselem, la question de la découverte de ces gisements de gaz absolument, enfin extrêmement importants en Méditerranée orientale, pour la Russie, c'est évidemment une mauvaise nouvelle.
C'est une mauvaise nouvelle précisément parce que la Russie, son marché naturel, c'est l'Europe. Et si émerge en Méditerranée orientale un espace très important de production de gaz, c'est très probable que la Russie voit ses commandes vers l'Europe diminuer. Maintenant, il faut quand même relativiser un petit peu les ressources de la Méditerranée orientale avec ceux de la Russie. Il n'y a aucune comparaison à faire, c'est certain. Mais pour autant, la Russie prend ça au sérieux et elle a de très bons relais d'influence dans la région, à Chypre notamment, en Israël, où une partie de la population est russophone, où il y a des représentations politiques d'ailleurs locales qui se revendiquent comme des anciens de Russie, etc. Donc la Russie a avancé ses pions, mais très tôt. C'est moins le cas maintenant. Mais pour autant, donc, on sait qu'il y avait des délégations de Gazprom qui se rendaient notamment en Israël, à Chypre, au moment où on décidait de qui allait pouvoir exploiter ou en tout cas explorer certaines concessions. Gazprom n'a pas pu s'imposer, mais la Russie a compris qu'il se passait quelque chose là-bas.
Et alors pour ce qui est des mauvaises nouvelles, on pense aussi au Qatar, qui n'est pas loin non plus, grand producteur de gaz. Le gaz en Méditerranée orientale, c'est moins de place pour le Qatar également.
Ça, j'en suis un peu moins sûr parce que vraiment, les gisements en Méditerranée orientale, c'est important à l'échelle des pays régionaux. Mais on est très très loin des importantes réserves du Qatar, de la Russie, de l'Iran. Il faudrait vérifier les chiffres, mais il me semble que le potentiel gazier de la Méditerranée orientale, c'est à peu près 1%, 2% des réserves mondiales. Alors que la Russie, l'Iran, on est plus dans du 17-18%. Donc c'est une solution, à mon avis, une solution de secours pour l'Union européenne. Ça peut pas être un approvisionnement sur le long terme stratégique, sur 20 ou 30 ans. Ça peut être une voie, par exemple, en cas de crise ukrainienne, par exemple, avec un problème d'approvisionnement du gaz russe. Là, alors oui, mettre en place un système régulier d'approvisionnement à partir de ce point-là, de la Méditerranée orientale, ça peut être intéressant. Mais il ne peut pas se substituer à des marchés gigantesques comme le Qatar ou la Russie.
Jean-Paul Bernier.
Oui, par ailleurs, le Qatar bénéficie d'un avantage comparatif, si je puis dire. C'est le fait qu'ayant construit au nord de la péninsule qatarie un gigantesque terminal de liquéfaction du gaz à Ras Laffan, le Qatar exporte son gaz par navire méthanier et que par définition, les navires méthaniers sont extrêmement souples, c'est-à-dire qu'on les envoie où on veut, dans le monde entier. Et c'est un avantage énorme, évidemment, par rapport aux installations fixes que sont les gazoducs ou les oléoducs. C'est la première remarque. La deuxième remarque, c'est le fait que nous avons tendance, avec ces découvertes en Méditerranée orientale, à raisonner sur le court terme, c'est-à-dire qu'est-ce qui va se passer dans 2 ans, 5 ans, 10 ans. Mais comme le disait David Amsalem, il faut raisonner sur le très long terme, c'est-à-dire voir où sont les grosses réserves. Et les grosses réserves, elles sont, comme il l'a dit, en Russie et en Iran à peu près à égalité, 17-18%, et au Qatar à 13%. C'est-à-dire que ces trois acteurs-là, à eux trois, représentent plus de 50% des réserves mondiales à long terme. Donc il faut, je crois, distinguer le court terme ou le moyen terme du très long terme.
Clémence Gaillini. Alors, comme le disait Jean-Paul Béoli, sur le long terme, Samuel Fafari, quelle est l'ambition, quelles sont les volontés de l'Union européenne par rapport à la Méditerranée et à la potentielle découverte de plus de gisements en Méditerranée ?
L'Union européenne a pour vocation de créer un marché intérieur du gaz. Une molécule de gaz qui entre n'importe où sur le territoire européen doit pouvoir arriver chez n'importe quel consommateur. Et pour ça, il faut renforcer les infrastructures à l'intérieur de l'Union européenne. C'est ce que nous sommes en train de faire avec des financements, notamment des projets transfrontaliers et en particulier dans le cadre du plan Juncker de relance de l'économie européenne. Cela veut dire que si du gaz parvient à rentrer par la Méditerranée, il peut aller n'importe où le gaz russe ou norvégien arrive pour l'instant. Donc la stratégie est de dire nous avons besoin de plus d'entrées dans le sud de l'Europe de manière à faire fonctionner le marché de manière plus harmonieuse dans le nord de l'Europe. Ce qui veut dire que nous avons proposé dans la stratégie de l'Union de l'énergie l'idée de créer un hub, une plateforme du gaz dans la Méditerranée. Déjà avant la découverte du gisement de Zohr en Égypte. Parce qu'il ne s'agit pas simplement de penser au gaz qu'il y a dans la Méditerranée, mais de voir le gaz qui conflue vers la Méditerranée. Que ce soit le corridor sud avec le gaz qui arrive de l'Azerbaïdjan ou de la mer Caspienne en général, que ce soit le gaz du Qatar dont on vient de parler, que ce soit le gaz de Libye un jour lorsque ça sera plus calme, le gaz d'Algérie avec des gros potentiels à la fois de gaz conventionnel et de gaz de roche-mer, mais aussi avec le gaz qui va arriver de l'Atlantique, c'est-à-dire des États-Unis ou de l'Argentine, qui est le deuxième pays en matière de réserve de gaz de roche-mer. Tout ce gaz va confluer vers la Méditerranée. Là, on peut créer une plateforme de gaz où on va fixer un prix qui sera forcément beaucoup plus bas que le prix du gaz qui nous arrive par la Norvège ou la Russie dans le nord de l'Europe. Je répète, il ne s'agit pas de dire qu'on ne veut plus de ce gaz, mais on veut faire jouer le marché de manière à ce que le prix ne soit plus lié au prix du pétrole, comme vous le disiez tout à l'heure, Madame Chatin, mais aussi que le prix soit foncièrement plus bas pour le bénéfice de notre économie.
Mais alors, très concrètement, où est-ce qu'on en est de ce projet de plateforme ? À quelle échéance ? Comment, j'imagine que c'est quelque chose qui prend du temps et qui demande une coopération réelle sur cette question, Samuel Fafari.
Il faut comprendre que dans le domaine de l'énergie, l'unité de temps, c'est 10 ans. L'unité de compte, c'est le milliard. On ne fait rien qui coûte moins d'un milliard en matière d'énergie. Et on ne fait rien, en particulier dans ces questions gazières, en moins de 10 ans. Donc, on a mis en route une nouvelle stratégie, on va la définir avec les États membres, de manière à ce que dans 10 ans, lorsqu'on devra renégocier les contrats long terme avec la Russie, nous ayons plus de cartes en main que nous en avions en 2005 et en 2006 lorsque les contrats ont été signés.
Alors la question est d'un côté les pays importateurs, les autres pays exportateurs. Du côté de la Méditerranée orientale, moi j'ai envie de poser cette question, de finalement savoir est-ce qu'il peut y avoir, est-ce que on sent les prémices d'une sorte de cadre régional d'exploitation? Où en sont les pays qui précisément ont découvert donc ces gisements de gaz? Israël, le Liban, Chypre, la Grèce, la Syrie peut-être. Est-ce qu'on peut imaginer quelque chose de constructif? Samuel Fiofari.
Si on parvenait à faire dans cette zone de la mer du Levant ce que nous avons fait, nous, en Europe, avec le traité SECA, ça serait une grande étape vers la pacification du monde.
Traité SECA qui est donc à l'origine de la création de
l'Union européenne, avec le charbon et l'acier. Nous sommes parvenus à nous intégrer en mettant en commun les instruments qui servaient à faire la guerre, l'acier et le charbon. Si on parvenait à faire fonctionner l'Égypte, Chypre, Israël, de manière harmonieuse, en trouvant une solution qui facilite l'exportation des trois pays en même temps, nous avons gagné un grand pas vers la paix dans le monde. Chypre a proposé à Israël d'exporter son gaz vers son île et de construire un terminal à Basilikos, de manière à exporter du LNG à partir de là. Israël et l'Égypte sont en train de discuter de manière à exporter le gaz de Léviathan vers Al-Arish ou Damietta, pour pouvoir exporter du gaz israélien à travers l'Égypte.
LNG, juste, Samuel Fiofari, c'est du gaz liquide, n'est-ce
gaz
pas?
Gaz liquide, pardon. Ils sont en train de parler. Il y a peut-être moyen de trouver une solution, et l'Europe a un rôle clé à jouer là-dedans, de manière à trouver une solution qui bénéficie à la fois à tous ces pays et aussi à l'Union européenne.
David Mselem.
Moi, je suis beaucoup plus réservé sur les perspectives de paix qu'offre la découverte de gaz en Méditerranée orientale. Et le parallèle entre l'ACK, donc l'acier, le charbon, facteur de paix et de création de l'Union européenne, avec le gaz dans cette région du monde, c'est une vision très très optimiste, et je ne la partage pas. Et d'autant plus que les rivalités entre acteurs sont encore extrêmement fortes. Si Chypre et Israël ont commencé à discuter et à négocier en 2010, c'est parce que précisément à ce moment-là, les relations entre Israël et la Turquie étaient très mauvaises. Alors que jusqu'alors, Chypre et Israël n'entretenaient quasiment aucune relation. D'ailleurs, les avions de chasse israéliens, pendant leur entraînement en Méditerranée, allaient se poser à Chypre Nord, dans le cadre d'un accord avec la Turquie, ce qui embêtait Chypre Sud. Dès lors que cette opposition-là tombe, il y a une opportunité, une rivalité. Donc je pense que dans cette région-là, compte tenu des conditions politiques, historiques, culturelles, qui sont vraiment très très différentes, on ne peut être que dans une logique de rivalité et de rapport de force, c'est-à-dire l'allié d'hier peut être l'ennemi de demain. Donc on est quand même dans une région très instable, où déjà à l'intérieur de ces États, il y a des rivalités internes très fortes. Et je vous dis, en 10 ans, les relations entre acteurs évoluent énormément. Donc c'est pas impossible que demain, la Turquie et Israël, les relations se réchauffent, et là du coup, que dira Chypre? Je ne suis pas sûr qu'on soit encore dans un schéma très pacifié.
Clémence Gaglini.
Alors oui, on a parlé un petit peu de la Turquie. Quelles sont les ambitions de la Turquie sur ces nouveaux gisements en mer orientale? Et est-ce que aussi la découverte de ces gisements a renforcé les tensions avec Chypre, ou au contraire, comme on a pu voir entre Israël et Chypre, aurait plutôt relâché ces tensions?
David Mselem.
Très clairement, la découverte de gaz, et c'est pour ça que je ne partage pas vraiment cette vision d'énergie en tant que facteur de paix, parce que la découverte de gaz au large de Chypre a accentué les dissensions entre la Turquie et Chypre. Parce que précisément, le gisement Aphrodite, qui est le gisement chypriote qui a été découvert au large de Chypre, s'est fait au large de Chypre Sud. Et la Turquie et Chypre Nord ont contesté le droit même de Chypre Sud d'explorer cette zone-là. Et la mesure de rétorsion immédiate de la Turquie, ça a été d'envoyer des bateaux d'exploration escortés par des navires militaires pour aller explorer Chypre Nord. Et d'ailleurs, il y a eu en 2010, 2011, 2012, et ça continue, mais moins maintenant, des navires militaires turcs qui se baladaient très près des côtes de Chypre Sud, précisément pour envoyer un message fort. Et d'ailleurs, c'est l'un des enjeux de l'accord israélo chypriote, c'est que Chypre a demandé à Israël d'envoyer sa marine militaire à proximité du gisement Aphrodite pour défendre en même temps Tamar et Léviathan, mais également Aphrodite. Donc on voit bien que Tout ça accentue les tensions, mais qu'en même temps, elle peut rapprocher certains États qui ne l'étaient pas. C'est le cas d'Israël, Chypre et Grèce, ce qu'on a appelé à un moment le fameux triangle énergétique qui est en train de se former. C'était tout à fait inédit. Juste une petite parenthèse sur la Grèce. Pendant très longtemps, sous l'effet de politique interne, la Grèce était hostile à Israël. Et puis finalement, on a vu que avec l'élément déclencheur qui a été la fin des relations israélo-turques, la Grèce s'est rapprochée d'Israël et en même temps Chypre, on a eu une nouvelle alliance. Donc tout ça est vraiment très intéressant à observer.
Un autre élément peut-être aussi pour éclairer nos auditeurs, c'est la question des frontières maritimes sur lesquelles les pays ne se sont pas mis d'accord de façon parfaite encore, Samuel Furfari.
Lorsque la Turquie s'est plainte de l'exploration par Chypre, M. Davutoğlu, qui était à l'époque ministre des Affaires étrangères, a rencontré à New York lors d'une rencontre des Nations Unies Mme Clinton pour se plaindre et une fin de non-recevoir. Chypre est dans son droit, elle explore où elle veut dans sa zone d'exploitation exclusive. Les Chypriotes n'ont pas voulu jeter de l'eau sur le feu, ils auraient pu exploiter beaucoup plus au nord, ils ont choisi d'exploiter le plus au sud possible, où il n'y a pas de contestation possible avec Chypre du Nord, et donc la Turquie n'a rien à dire. Ils sont dans leurs eaux territoriales. D'ailleurs, le gisement d'Aphrodite est en partie dans la zone exclusive d'Israël. On voit bien donc qu'on a pris toutes les précautions pour ne pas jouer les bouts de feu. Donc, il y a encore énormément de gisements qui sont potentiellement exploitables dans les eaux de Chypre, mais ils le font avec sagesse pour ne pas envenimer la situation. Il est certain qu'il y a des zones de conflit entre zones économiques exclusives de Chypre et Chypre Nord, mais en ce qui concerne Israël, Égypte, Gaza et Chypre, il n'y a plus de problème. Tout ça est réglé. Il reste une petite zone de quelques kilomètres carrés entre le Liban et Israël, mais chacun a compris qu'on ne va pas aller mettre le feu au Moyen-Orient pour cela. D'ailleurs, ça n'en vaudrait pas la peine. Il y a tellement de gaz ailleurs, pourquoi aller faire des conflits? C'est pour ça que je me distance un peu de ce qu'on disait tout à l'heure. Ici, ou bien ils perdent tous ensemble, ou bien ils gagnent tous ensemble. Parce que, en effet, ce gaz de la mer de Levant, par rapport à ce qu'il y a en Iran et en Russie, c'est pas grand-chose. Et donc, ils ont intérêt à collaborer pour essayer de pénétrer le marché et ne pas laisser la place exclusivement aux géants.
Gagner tous ensemble ou perdre tous ensemble. Alors, très, très rapidement, pour conclure, David Mselem et Jean-Paul Burdi. David
Mselem. Simplement sur la question des frontières maritimes, qui est extrêmement intéressante. Pendant très longtemps, des décennies, on s'est battu pour du territoire terrestre dans cette région. Et on s'est aperçu dans les années 90 et surtout au début des années 2000, que le territoire maritime avait une vraie valeur stratégique. Et quand on a regardé au début des années 2000 les premières cartes de délimitation maritime, aucun État n'avait délimité sa frontière maritime. Et là, le conflit de délimitation le plus fort et le plus dangereux, c'est vraiment entre Israël et le Liban. Il faudra suivre ça également.
Jean-Paul Burdi.
Effectivement, les frontières maritimes et sous-marines ont pris une importance croissante ces dernières décennies. Le statut de la Caspienne n'est toujours pas déterminé, c'est-à-dire mer ou lac. Et un élément du débat, c'est de savoir comment on exploitera effectivement les richesses offshore. Entre le dôme gazier partagé à 50-50 entre l'Iran et le Qatar dans le golfe Persique, chacun soupçonne l'autre de soutirer plus de gaz qu'il n'en a droit. Donc je crois qu'effectivement, comme le dit David Mselem, les frontières maritimes acquièrent une importance croissante.
Merci, c'est la fin de Géopolitique. Merci à nos invités Samuel Furfari, professeur de géopolitique à l'Université libre de Bruxelles et spécialiste des questions énergétiques, David Mselem, spécialiste également des enjeux énergétiques, docteur en géopolitique de l'Université Paris 8, et Jean-Paul Burdi, historien à Sciences Po Grenoble, où nous enregistrions cette émission consacrée aux enjeux énergétiques en Méditerranée et au Moyen-Orient. Et merci aussi à Clémence Gaillonni, étudiante en deuxième année en master Méditerranée-Moyen-Orient à Sciences Po Grenoble. C'est la fin de Géopolitique. Vous pouvez retrouver l'émission sur le site internet de RFI, www.rfi.fr. Émission signée Marie-France Chatin et Manu Potchez à Grenoble, Nathalie Laporte à Paris. Samedi prochain, Géopolitique sera précisément consacrée à Israël. À samedi prochain.